franceinter.fr.
Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
XIV-XVIII, la grande guerre des écrivains.
Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs. Cette bague, je l'ai polie, le vent se mêle à vos soupirs. Adieu, voici le bout de sel, il disparut dans un tournant. Et mourut là-bas tandis qu'elle riait au destin surprenant.
Apollinaire lui-même, pourtant parti en 14, flamberge au vent dans un élan chevaleresque, sentira la justification de son combat se dérober peu à peu. Au fil des mois, tous les écrivains qui participent à la guerre voient pareillement les motifs premiers qui les animaient se détacher d'eux, un peu comme des écailles, les laissant à vif. Barbus, par exemple, avait annoncé publiquement dans l'Humanité son engagement volontaire. Bien que pacifiste et socialiste, il croyait qu'il fallait défendre la nation attaquée. Puis, l'expérience avait réorienté le sens qu'il avait d'abord donné à son acte. 2 ans plus tard, son livre « Le Feu » cherchait à éclairer ce qui naissait dans l'écroulement brutal de la vieille Europe civilisée. Pris Goncourt en 1916, ce livre est celui qui pénètre le plus massivement dans les tranchées. Mais en même temps, il n'est qu'un texte dans une multitude. À l'arrière et dans les tranchées, on lit beaucoup. Jamais la France n'avait autant lu qu'à cette époque. Et jamais la réalité n'a été aussi illisible, même pour les écrivains. Antoine Compagnon, bonjour.
Bonjour.
Au Collège de France, vous avez consacré vos cours de cette année à ce sujet, puis vous publiez une anthologie chez Folio au mois d'avril qui s'intitulera, comme cette émission, « La grande guerre des écrivains ». Alors nos auditeurs vous connaissent bien depuis votre été avec Montaigne. Il n'est pas impossible d'ailleurs que nombre de poilus, je parlais du caractère très lecteur de la France de cette époque, avaient Montaigne dans leur gypsière, dans les tranchées.
C'est exact, mais le problème des essais de Montaigne, c'est que c'est un gros livre. Et dans les tranchées, on préférait des collections populaires qui étaient en fascicules. Donc il fallait un Montaigne divisé par chapitre des essais. C'était sûrement plus pratique, mais un critique comme Albert Thibaudet rappelle qu'il avait dans sa musette Thucydide, la guerre du Péloponnèse, pour comprendre la guerre nouvelle et Montaigne.
On va commencer, si vous le voulez bien, l'arrière et le front sont beaucoup plus liés qu'on ne le pense, par l'arrière et la difficile communication, bien qu'il y ait liaison, entre l'arrière et l'avant. Alors, il y a Proust dans votre série du Collège de France ? Proust avec vous.
J'ai parlé de Proust. Proust est un grand écrivain de la guerre, hein, dans Le Temps retrouvé, publié en 1927. Proust était déjà mort il y a 130 pages sur Paris pendant la Grande Guerre. Et c'est un témoignage unique, puisque rares sont les écrivains qui se sont aussi intéressés à ce qui se passait à Paris pendant que les soldats étaient au front, pendant leur permission, etc.
La fin de la recherche infuse dans le climat de la guerre. Alors on se souvient peut-être de cette scène à Cabourg, avant la guerre, où les pêcheurs regardent par la fenêtre, ils sont à l'extérieur, les pensionnaires du Grand Hôtel qui festoient à l'intérieur. Pareillement, un poilu permissionnaire devant un grand restaurant, s'il entendait la conversation qui se déroule derrière la vitrine.
Les adorateurs de l'Allemagne font salon à Paris, dînent et festoient comme si la guerre n'existait pas.
En avons-nous pour longtemps ?
Non, je crois à une guerre très courte. Relis le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités. Je vais prendre ça, et ça. Et tu verras que le remplacement des réserves n'est pas organisé, ni même prévu d'ailleurs. Ce qu'on n'eût pas manqué de faire si la guerre devait être longue.
Je vais vous présenter à mes amis. À moins que la jeunesse ne vous ennuie.
Non, non.
Qu'est-ce qu'on vous sert ? Une liqueur, un peu de champagne ?
Les voix à qu'on joue.
Les drapeaux, c'est les zones de bataille.
Il reste du caviar, si vous voulez.
Fin de l'alerte. Ça ne vous fait pas penser à du Wagner, un appel de Valkyrie dans la nuit? C'est dans le fond la seule musique allemande autorisée depuis la guerre.
Alors, un film du regretté Raoul Ruiz, c'est déjà un montage acrobatique, mais revu par Jacques Sigal, exercice de trapèze.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été mêlées. Il y a la conversation entre Saint-Loup, de retour de permission, sa dernière permission avec le narrateur. Et puis, il y a ces Parisiens qui sont dans les restaurants pendant la guerre. Et puis, il y a tout ce thème de la germanophobie parisienne dont Proust nous montre qu'elle n'était pas universelle. Tout le monde ne détestait pas la musique ou la littérature allemande à Paris entre 1914 et 1918.
Et d'ailleurs, à un moment, quand Bloch, le planqué germanophobe, veut dire du mal des Allemands, son interlocuteur, qui est au front,
oui,
refuse de parler de cette manière.
Oui, il n'y avait pas de haine des Allemands dans les tranchées. Ça s'est bien vu d'ailleurs chez Barbus. Hein. La solidarité des soldats. Ceux qu'on détestait, c'était les officiers. Et puis l'empereur Guillaume, bien sûr. Mais il y avait un sentiment que les soldats des deux côtés étaient des victimes dans beaucoup de cette littérature des tranchées.
Mais avant de parler de la littérature des tranchées, restons dans la littérature dite de l'arrière. Encore un peu de temps, de moi, Madame Verdurin se fera faire une ordonnance pour obtenir un accès libre au croissant. Et en 1915, commentera un peu en jacassant le torpillage du Lusitania. Un peu comme nous, quand nous commentons une révolution ou une guerre après avoir écouté France Info.
C'est en lisant le journal. Elle lit le journal au petit déjeuner, en dégustant ses croissants. Et dans le journal, il y a la fin du Lusitania, qui est un grand moment de la guerre, donc de la guerre sous-marine. Et bien, ça dit aussi notre rapport à la presse. Hein. C'est Baudelaire qui disait que c'était un acte abject de lire les faits divers dans la presse chaque matin, qui ne comprenait pas que l'homme civilisé puisse le faire. Et nous sommes souvent très divisés devant la presse en lisant les nouvelles du monde dans notre confort.
On lit les journaux les yeux bandés, comme on aime, dit Marcel Proust. Les journaux qui offrent l'hospitalité aux écrivains. Il y a de plus en plus d'écrivains journalistes dès avant la guerre 1914. Et puis certains, restons toujours à l'arrière, ont une influence considérable. Là, il faut citer Maurice Barrès.
Barrès est l'un de ceux qui a... Bon, il a écrit, ça fait 14 volumes, sa chronique de la Grande Guerre, hein, dans l'Écho de Paris, tous les jours, entre 1914 et 1918. C'est quelque chose qu'on ne lit plus beaucoup, évidemment.
Mais on retrouvera en abondance Maurice Barrès dans votre anthologie de la Grande Guerre chez Folio.
Oh, il sera présent, mais à sa place, pas plus qu'il ne faut. Mais Barrès n'était pas tellement aimé dans les tranchées. Hein. Il avait un surnom, il avait même plusieurs surnoms, hein, le poilu de la arrière, on l'appelait le rossignol du carnage. Puis il était le modèle de ceux qu'on appelait les bourreurs de crâne.
Mais c'était pas un bourreur de crâne, j'essayais de le défendre face à vous. Il les comprenait, cette incommunicabilité dont parle aussi à sa manière Marcel Proust, et il était l'objet d'une immense correspondance, des milliers et des milliers de lettres. L'Écho de Paris s'est envolé pendant la guerre grâce à lui, et il essayait de résoudre des problèmes pratico-pratiques, les problèmes des veuves qui lui étaient confiés par les lettres, ou les problèmes du casque, tenez, qui lui étaient confiés par les fantassins qui portaient encore le képi.
Le 10 décembre 1914, je posais le problème « Le combattant peut-il se protéger efficacement contre certains des projectiles allemands ?» Français, anglais, russes, italiens, allemands, nous avons été obligés d'entrer dans les tranchées pour y protéger le fantassin contre les armes du jour. Nous avons eu recours aux vieux moyens classiques, aux modes de protection collective qu'est la tranchée, mais la guerre de mouvement reparaîtrait aussitôt si l'on pouvait substituer à la protection collective la protection individuelle et à la tranchée substituer l'armure de jadis, casque, épaulière, bouclier. D'ailleurs, puisque nous parlons tranchée, comment en sommes-nous encore réduits à la pelle et à la pioche des ancêtres? Ne devrait-elle pas être établie mécaniquement? Où est la charrue automobile pour les creusements? Tandis qu'on se plaint partout du manque de main-d'œuvre et de main-armée, ne faudrait-il pas demander à des moyens mécaniques l'économie et la rapidité? Ne pourrions-nous pas, en cours de guerre, multiplier les applications rationnelles et simples? Je craindrais d'être injuste en répétant que nous manquons parfois un peu d'imagination.
Nous manquons un peu parfois d'imagination. L'imagination, c'est pour la littérature héroïque, là, semble dire Maurice Barrès. Et il faudrait de l'imagination pour le pratique.
Mais alors, vous avez entendu ce qu'il dit, Barrès. Il rappelle qu'en 14, on est parti à la guerre avec des képis et qu'on a rencontré des obus et des mitrailleuses. Donc, l'armée française était totalement inadaptée à ce nouveau type de conflit industriel. Mais vous avez remarqué que Barrès réclame des casques pour reprendre la guerre de mouvement, alors qu'à partir de l'automne 14, c'est une guerre statique, c'est une guerre de position. Alors, le casque sera introduit à partir de 1916, hein, dans l'armée allemande comme dans l'armée française. Hein. Les Allemands abandonneront ce casque à pointe qu'ils avaient jusque-là, qui était en cuir bouilli, donc qui était une protection contre le sabre, mais non pas contre les obus, qui étaient la nouveauté. Le casque sera introduit, mais enfin, la guerre de mouvement, elle ne reprendra qu'en 1918, beaucoup plus tard. Donc oui, le casque sera certainement une protection, mais c'est une protection relativement modeste face à cette guerre déclenchée par les bombardements.
Je n'arrive pas à vous faire rendre grâce à Barrès. Je parlais de la recherche du sens qui se transformait à mesure que la guerre passait. Lui, il a beaucoup évolué. Il était antisémite, il dit les Juifs, on peut les adopter à partir du moment où ils ont participé au combat. Et les socialistes, il va rendre visite à la fille de Jaurès tout de suite après son assassinat. Et les Dreyfusards, comme Dreyfus, comme Piggy, pardonnez-moi, disparu tout de suite au début de la guerre. Les diverses familles spirituelles de la France sont réunies par la guerre.
C'est exact. Il y a ce qu'on a appelé l'Union sacrée, qui a duré au moins jusqu'en 1917. L'Union sacrée n'impliquait pas pourtant qu'un certain nombre de conflits, de divisions subsistent. Et si je pense à la littérature, il y avait la majorité de la littérature écrite entre 1914 et 1918 était une littérature héroïque, était une littérature de courage, de bravoure, de cran, comme on disait encore. Or, ce n'est pas vraiment celle-là que nous avons retenue depuis. On a plutôt retenu le courant résistant, pacifiste, non pas le courant belliqueux.
C'est pour ça qu'on a retenu Romain Rolland infiniment plus que Maurice Barrès. On ne va pas le présenter comme un planqué non plus, Romain Rolland. Il est extrêmement actif à Genève pour les prisonniers de guerre. Il développe une correspondance extraordinaire. Et lui aussi, il est à la recherche du sens. Il est complètement perdu, il est dans le brouillard.
Et puis, il faut dire que Romain Rolland est l'un des rares à avoir réagi très tôt, hein, puisque bon, il y a cette correspondance avec Zweig qui sera pacifiste, mais plus tard. Hein, les premiers textes de Zweig, on l'a un peu oublié, en 1914, étaient favorable à la guerre et favorable à l'Allemagne, au moins jusqu'en 1916, où il a joué un rôle comme archiviste de l'armée autrichienne. Romain Rolland est déterminé tout de suite et en effet, il est l'homme le plus haï en France dès l'automne de 1914.
Il a le prix Nobel en 1915.
Oui, il a le prix Nobel, ce qui n'arrange pas son cas hein, dans la société française à ce moment-là.
Il est presque autant détesté que Benoît XVI, qui cherche à apporter un peu après. Benoît XV, pardonnez-moi, à apporter la paix. Oui. Puisqu'on parle de la Suisse, voici l'histoire du soldat Stravinsky l'a composé, réfugié lui aussi en Suisse, privé du vaste dispositif des ballets russes et d'un orchestre symphonique, avec quelques musiciens. Un récitant ici, c'est Michel Faux, avec l'orchestre très restreint de Jean-Christophe Verdier.
Entre dans Gidenezy, un soldat qui rentre chez lui. Thank you.
marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Antoine Compagnon qui consacre cette année son cours du Collège de France aux écrivains et à la Grande Guerre. Les écrivains qui forment un milieu professionnel si important qu'à l'arrière, on compose pour eux, dès 1914, le bulletin des écrivains qui donne leurs adresses militaires, dresse la nécrologie des morts, etc.
On a pensé en août 14 que la guerre serait un ferment pour la littérature, qu'il en sortirait une grande littérature, que cela rendrait les lettres françaises plus énergiques, que cela les ferait renaître, un élément de renaissance, peut-être. Et puis, assez vite, on a déchanté, justement, dans les lettres de Barbus, il se plaint de ce bulletin des écrivains, où, dit-il, il y a surtout des planqués. Oui, ce grand mot dans la guerre de 14-18, c'est celui d'embusqué. On est toujours l'embusqué de quelqu'un, sauf les morts.
Vous brûlez de parler du feu d'Henri Barbus, qui va être le livre qui pénétrera le plus intimement dans les tranchées, et qui se présente comme un journal. 1916, journal d'une escouade. Et en effet, il note très précisément, comme dans un journal, tout ce qui lui advient depuis le début de la guerre.
Tout le monde est parti en août 14 avec un carnet dans la poche. Et des carnets, on en a dans tous les greniers, dans toutes les familles. Les soldats sont partis en pensant qu'ils allaient vivre quelque chose d'exceptionnel. Ils ne pensaient pas que ça durerait aussi longtemps. Mais Barbus a tout de suite commencé à écrire, il n'est pas le seul, et il envoyait des lettres à sa femme. On le sait qu'on écrivait énormément pendant la guerre, on écrivait des lettres, et tout ça était conservé. Il ramassait, on a beaucoup aussi ramassé de documentation sur les morts ennemis, on ramassait des journaux allemands, on ramassait des lettres et des photos. Barbus renvoyait tout ça à sa femme pour constituer sa documentation. Et puis il s'est mis à écrire son livre dès 1915, dès le printemps de 1915.
Et il écrivait aussi un peu sous la dictée et sur les recommandations de ses camarades. Ici, c'est son camarade Barque. Nous sommes dans le chapitre intitulé « Les gros mots dans le feu ».
Toi qui écris, t'écriras sur les soldats de cette guerre? Tu parleras de nous?
Mais oui, de toi et des copains et de notre existence.
Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Oui. Si tu parles des troufions, tu les feras parler comme ils parlent? Ou bien t'arrangeras ça? Non, je te dis ça, c'est rapport aux gros mots qu'on dit. T'entendras jamais deux poilus l'ouvrir pendant une minute sans qu'ils disent et qu'ils répètent des choses qu'il y a des gens... Enfin, les gens bien aiment pas entendre, quoi. Alors, si tu les dis pas, bah, ton portrait, il sera pas ressemblant. C'est comme qu'il dirait que tu voudrais les peindre et puis que tu ne mettes pas une des couleurs partout où elle est. Et pourtant, ça se fait pas, ce qui paraît.
Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit père, parce que c'est la vérité.
La vérité. Qui la croira encore quand le temps de l'oubli sera en route? Qui croira que pour pouvoir vivre des jours, des semaines, des mois, des ans, les hommes ont dû s'enterrer vifs pour pouvoir vivre?
René Darry dans le rôle du Troufion Barque dans l'adaptation radio d'Albert Riera.
C'est un passage très important au centre du livre de Barbus. C'est un passage qui aura beaucoup de conséquences parce que Céline y pensait encore en se demandant, lorsqu'il écrira « Voyage au bout de la nuit » et publié en 1932, il se demandera encore s'il pouvait faire mieux que Barbus dans le feu. Et bien sûr, il aura un tout autre usage de la langue parlée, mais avec Barbus, on a cette introduction. L'autre point, c'est qu'il est en conflit. Le feu est publié en feuilleton dans l'œuvre. dans l'été de 1916, et on le corrige, on le censure dans le journal parisien. On corrige sa copie, on élimine les gros mots. Et cela, il ne le supporte pas. Et puis alors, il y a aussi un point qui est fondamental avec ce petit passage, qui est celui du mélange des classes dans les tranchées. Est-ce que cette union sacrée a véritablement existé entre les enfants de la bourgeoisie et les enfants du peuple, les paysans, puisque c'était surtout des paysans? En vérité, pas tellement. Barbus était assez exceptionnel, et on le voit quand on lit ses lettres, il était plus proche des sous-officiers que des paysans qui composaient l'escouade à laquelle il était mêlé. Et au fond, tous ceux qui avaient fait un minimum d'études, très vite, ils ont été promus sous-officiers ou officiers. Et c'est ça aussi qui est en cause dans ce petit passage.
Mais les gens simples arrivent pendant la guerre à des pensées extrêmement complexes, et il arrive que les écrivains arrivent à une grande simplicité.
Oui, le problème, c'est celui de la langue, hein, qu'il évoque ici. Et bien entendu, on peut aussi, à ce moment-là, penser au rôle que le feu a eu dans les tranchées, puisque c'est un livre en feuilleton et puis en volume qui a été très populaire. Et c'est le livre grâce auquel beaucoup des soldats ont compris ce qu'ils étaient en train de vivre.
Et les familles, et les veuves.
Et les familles et les veuves.
Qui ont lu aussi beaucoup le feu à cette lumière. Alors, c'est un témoignage, c'est un journal, en même temps, c'est ordonnancé comme un récit. La polémique sera lancée par quelqu'un dont on peut prononcer le nom, parce qu'il a réuni avant vous beaucoup de témoignages et constitué une sorte d'anthologie. C'est Jean Norton Crue. Jean Norton Crue, dans les années 20, dans un livre qui s'appelle Témoin, dit: c'est pas un vrai témoin, Barbus, le vrai témoin, c'est Genevoix. Et vous ajouteriez, la preuve, c'est que Genevoix est beaucoup plus censuré que Barbus, curieusement.
C'est-à-dire, Jean Norton Crue a soulevé cette polémique dans un livre de 1929 qui s'appelait « Témoins », où il discréditait tous les écrivains, c'est-à-dire tous ceux qui avaient de Barbus ou d'Orgelès, qu'on n'a pas cité, mais qui est l'un des plus populaires et qui
les
a été lu pendant des décennies, les Croix de Bois. On le lit toujours. Et il considérait que ces écrivains avaient fait de la fiction, de l'invention. Donc il privilégiait la sincérité, et cette sincérité, il l'a trouvée chez Genevoix. Oui, Genevoix était beaucoup plus censuré, c'est publié exactement en même temps que Le Feu, mais Genevoix était un sous-lieutenant, un jeune officier, donc il y avait une sorte de crédit de ce qu'il écrivait qui était beaucoup moins supportable pour les censeurs militaires. Quand il décrivait par exemple des pillages, eh bien, ces pages étaient supprimées. Quand il décrivait des soldats qui fuyaient le front, c'était le point de vue d'un officier et ça ne pouvait pas rester.
Le lieutenant Genevoix, interpellé par les blessés dans un entonnoir creusé par un obus, c'est l'académicien Genevoix qui lit lui-même dans les années 1960.
Il fait tout à fait nuit maintenant. Des voix montent de l'entonnoir. Des voix gémissantes qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Les cris montent et tremblent dans la nuit. Brancardiers, les brancardiers! Il fait très froid. Une froidure d'après la pluie, terrible aux pauvres chairs lacérées. Ils crient maintenant, ils clament la souffrance de leur corps. Mon pied coupé, mon genou, mon épaule, mon ventre. Sous la loque noire qui me couvre, une odeur de caoutchouc rance me colle au visage comme un tampon. Mes mains brûlées me cuisent et leur peau gonflée se détache. Mes pieds gèlent. Je ne sens rien. Tant les voix crient autour de moi, tant l'entonnoir rempli de nuit blafarde, vacille et hurle de souffrance. Lieutenant Genevoix, mon lieutenant, il m'appelle, moi, à présent. Qu'est-ce que je peux descendre? Monter, m'accroupir près d'eux ou m'asseoir et toute la nuit dire des mots inutiles puisqu'il fait froid, puisqu'ils sont seuls, puisque les brancardiers ne viendront pas.
Antoine Compagnon.
Le livre de Genevoix est assurément l'un des plus émouvants. Là, c'est encore un journal, hein, mais ça, c'est un journal sans doute plus authentique que celui de Barbus, même si Genevoix n'a tenu son carnet que dans les premières semaines. Ensuite, c'est un journal rétrospectif de mémoire, mais dans le passage que nous venons d'écouter, ce à quoi on est très sensible et ce qui est rare dans tous ces livres sur la guerre, c'est cette compassion, cette pitié pour ces hommes qui est celle du jeune, puisqu'il est tout jeune, il a 20 ans, il est sous-lieutenant, il est encore élève à l'école normale, hein, il vient de faire une maîtrise de lettres, et il est devenu en quelques semaines un guerrier, un soldat, hein, comme il le dit, et au fond, il a le même âge que ces soldats qui sont avec lui, et c'est donc un témoignage très rare dans cette position, je dirais, du chef de section. Il y a le chef d'escouade, le caporal, ou le chef de section, ce sont ceux-là qui ont vu la guerre, et ce sont ceux-là qui peuvent en parler.
Ce n'est pas discréditer Genevois que de dire qu'il utilise une langue traditionnelle, j'allais dire presque une syntaxe conventionnelle. Le peintre Fernand Léger voit un jour, à l'issue d'un combat, une chaise percée qui est au sommet d'un arbre, et il dit c'est comme ça qu'il faudrait représenter la guerre. La littérature française est restée dans des formes conventionnelles pour parler de la guerre.
La littérature française est revenue à des formes. Elle est revenue au naturalisme. Elle est revenue, Barbus, on l'appelait le Zola des tranchées. Et Genevois venait de faire sa maîtrise de lettres sur Maupassant. Donc on est revenu à cette littérature, alors qu'en 1913, on venait de publier Du côté de chez Swann et Le Grand Mône. On était passé dans un autre modèle du roman. Et on est revenu à des formes, puisqu'on n'a pas parlé de la poésie, mais tout le monde a écrit des vers. C'est Sandrard qui dit que dans les tranchées, on passait son temps à écrire des vers. Mais ces vers, c'était des vers réguliers, c'était des alexandrins. C'est ça qu'on savait faire lorsqu'on était passé à l'école. La littérature française est relativement conventionnelle entre 14 et 18. Et comme après la guerre, très tôt après la guerre, dès 1919, on n'a plus beaucoup écrit sur la guerre en France parce qu'on ne voulait plus en entendre parler. Je pense qu'il faudra attendre les années 30 pour rencontrer les œuvres véritablement modernes, modernistes, qui nous parleront du premier conflit mondial avec Drieu La Rochelle, avec Céline ou avec Sandra.
Vous avez bien fait de noter, Antoine Compagnon, que dès 1919, dès 1920, avant de pouvoir adopter ses formes modernes, elle va paraître, cette littérature de guerre, démodée, dit Georges Duhamel avec amertume, à ceux qui font profession de lire. Est-ce qu'il naît une nouvelle humanité de cette guerre? La question n'aura pas beaucoup le temps d'être posée. On termine avec Henri Barbus, qui vous est si cher.
Tu crois que tu pourras jamais être un homme maintenant? Un homme comme avant, quoi, un homme.
Faudrait pouvoir oublier.
Les marches qui usent les os sous le poids de la charge.
Les travaux qui dépassent les forces.
L'éveil à guetter l'ennemi qui est partout dans la nuit. Et à lutter contre le sommeil.
La cagnotte dégueulasse. La tranchée dans la boue.
L'oreiller de fumier.
La canonnade qui remplit l'horizon. Sans trêve, sans rémission.
Les marmites, les mitrailleuses, les mines.
Et les gaz asphyxiants.
Puis les attaques et puis les contre-attaques.
Et de jour et de nuit.
Puis ta misère de même plus être un homme.
Merci à vous, Antoine Compagnon. On peut retrouver cette émission en la téléchargeant sur le site de Radio France, mais aussi vos cours sur le site très puissant, lui aussi, du Collège de France. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, Martin Cellier, à la technique Clément Vuillet.